Aristote, Rhétorique, livre 2, chapitre 9. De l'indignation. 1. L'opposé de la pitié, c'est principalement l'indignation. Car il y a opposition entre la peine que nous cause un malheur immérité et celle que, dans un même sentiment moral, nous éprouvons à la vue d'un succès immérité. Et dans les deux cas, ce sentiment est honnête. 2. En effet, il nous arrive nécessairement de compatir et de nous apitoyer quand le sort immérité est un échec, et de nous indigner quand c'est un succès. Car ce qui a lieu contrairement à notre mérite est injuste. Voilà pourquoi nous attribuons au Dieu même le sentiment de l'indignation. 3. L'envie pourrait sembler au même point de vue être l'opposé de la pitié, comme se rapprochant de l'indignation et s'identifiant avec elle. Mais c'est autre chose. Il y a bien aussi, dans l'envie, un chagrin qui nous trouble et que suscite aussi la vue d'un succès. Seulement, ce n'est pas alors le succès d'un indigne qui nous affecte, mais celui d'un égal ou d'un semblable. C'est cette considération, non pas qu'il nous arrivera autre chose, mais que cette chose nous arrivera à cause du prochain lui-même qui frappe semblablement l'esprit de tout le monde. Car il n'y aura plus envie dans un cas et pitié dans l'autre. Mais la crainte, si un chagrin ou un trouble nous est causé par la circonstance que quelque inconvénient ne résulte pour nous du succès d'un autre. 4. Il est évident que des sentiments contraires seront la conséquence de ces éventualités. Celui qu'afflige la réussite de gens qui n'en sont pas dignes se réjouira, ou du moins ne sera pas péniblement affecté de l'échec des gens placés dans une situation contraire. Par exemple, à la vue de parricides ou d'assassins quelconques subissant leur châtiment, personne parmi les gens de bien ne pourrait éprouver de peine, car on doit plutôt se réjouir d'un tel dénouement. De même aussi, à la vue de ceux qui remporteront un succès mérité. Les deux solutions sont justes et réjouissent le cœur de l'homme équitable, car il y puise nécessairement l'espoir que ce qui sera arrivé à son semblable lui arrivera aussi à lui-même. 5. Tous ces divers cas sont empreints du même caractère moral et leur contraire du caractère contraire. Celui qui se réjouit du mal des autres est en même temps envieux, car, étant donné telle chose qu'il nous est pénible de voir se produire ou exister, nécessairement, on sera heureux de la non-existence ou de la destruction de cette même chose. Voilà pourquoi toutes ces dispositions d'esprit qui empêchent les unes comme les autres la pitié de naître, mais diffèrent entre elles pour les motifs précités, contribuent d'une façon semblable à faire qu'il n'y ait pas de place pour la pitié. 6. Parlons d'abord de l'indignation et voyons contre qui l'on s'indigne, pour quel motif, dans quel état d'esprit. Puis, nous examinerons d'autres passions. 7. On voit clairement ce qu'il en est d'après les explications qui précèdent. En effet, si l'indignation consiste à s'affliger de voir quelqu'un réussir sans le mériter, il est dès lors évident que toutes les sortes de biens indistinctement ne feront pas naître l'indignation. 8. Ce ne sera jamais un homme juste ou brave ou vertueux qui suscitera l'indignation, car les diverses espèces de pitié n'auront pas de raison d'être à propos des contraires de ces qualités. Mais ce sera la richesse, le pouvoir et tels avantages dont, pour parler en général, sont dignes les gens de bien et ceux qui possèdent des biens naturels, comme par exemple la noblesse, la beauté et toutes autres choses analogues. 9. De plus, comme ce qui est ancien paraît se rapprocher de ce qui est naturel, il en résulte nécessairement que, en présence d'un même bien donné, c'est contre ceux qui le possèdent depuis peu et lui doivent la prospérité que l'on s'indigne le plus vivement. Car la vue de gens nouvellement riches nous affecte plus que celle des gens qui le sont d'ancienne date et de naissance. Il en est de même de ceux qui possèdent l'autorité, la puissance, un grand nombre d'amis, une belle famille et tous les avantages analogues. Et pareillement, s'il en résulte pour eux quelque autre bien encore. Et, en effet, dans ce cas-là, les gens investis de l'autorité, s'ils sont riches depuis peu, nous affligent plus que lorsqu'ils sont riches d'ancienne date. 10. On peut en dire autant des autres cas. Et la raison, c'est que les uns semblent posséder ce qui nous revient et les autres non. Car ce qui nous apparaît comme ayant toujours été ainsi nous semble être de bon aloi, et par la suite, les autres posséder ce qui ne leur appartient pas. 11. Et comme chacun des biens n'est pas mérité par n'importe qui, mais qu'ils comportent une certaine corrélation et convenance. Par exemple, la beauté des armes n'a pas de rapport de convenance avec le juste, mais avec le brave. Ni les brillants mariages avec les gens nouvellement enrichis, mais avec les nobles. Conséquemment, si tout en étant un homme de bien, on n'obtient pas un avantage qui réalise cette convenance, il y a place pour l'indignation. Et de même encore, si l'on voit un inférieur entrer en lutte avec un supérieur, et surtout si le conflit porte sur un même objet. De là, ces vers. Ils, ces brillants, déclinaient la lutte avec Ajax, fils de Télamon, car Zeus se fut indigné contre lui s'il eût combattu un homme qui lui était supérieur. Si tel n'est pas le cas, il y a aussi celui où un homme, inférieur par un côté quelconque, lutterait contre un autre homme qui, par ce côté, lui serait supérieur. Comme par exemple, un musicien contre un homme juste, car la justice est supérieure à la musique. Ainsi donc, contre quelle sorte de personne et pour quel motif nous éprouvons de l'indignation, on le voit clairement par ce qui précède, car tels sont les motifs ainsi que d'autres analogues. 12. On est disposé à s'indigner, d'abord, dans le cas où l'on vient à mériter les plus grands biens et à les acquérir. Car prétendre à des avantages semblables, quand on ne se trouve pas dans des conditions morales semblables, ce ne serait plus de la justice. 13. En second lieu, dans le cas où l'on est honnête et homme de valeur. Car dans ce cas, on juge sainement et l'on hait l'injustice. 14. De même, si l'on a de l'ambition et un vif désir d'accomplir certaines actions, et surtout si notre ambition a pour objectif tel avantage dont les autres seraient précisément indignes. 15. En un mot et d'une manière générale, ceux qui prétendent de mériter telle chose, dont ils ne jugent pas les autres dignes, sont enclins à s'indigner contre ceux-ci et à l'occasion de cette même chose. Voilà pourquoi les caractères serviles, sans valeur et sans ambition, ne sont pas susceptibles de s'indigner. Il n'est rien dont ils se puissent croire eux-mêmes être dignes. 16. On voit aisément d'après cela dans quelles circonstances la malchance, les échecs, le manque de réussite des autres doivent nécessairement nous réjouir ou du moins nous laisser indifférents. Les explications qui précèdent donnent une idée claire des circonstances opposées. Par conséquent, si le discours met les juges dans une telle disposition et que les personnes qui prétendent avoir droit à notre pitié, ainsi que les motifs allégués pour la faire naître, soient présentés comme indignes d'arriver à ce résultat et comme méritant plutôt de ne pas l'obtenir, il deviendra impossible que la pitié soit excitée.